Bonjour Monseigneur.
Bonjour Laurence.
Alors aujourd'hui, sur Radio Ecclesia, nous allons parler de vos orientations diocésaines. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Ben oui, volontiers. Alors les orientations diocésaines, je viens de les publier sous différents supports. Ben, il y a d'abord le support de Radio Ecclesia. J'ai fait des podcasts aussi pour pouvoir écouter le texte plutôt que de le lire. Ça s'écoute sur son smartphone ou bien sur Internet. Et puis, il y a un petit livret d'une quarantaine de pages avec des photos. Comme ça, chacun peut lire ses orientations sur le support qu'il préfère. Et puis, ça permet aussi, par exemple, à des équipes d'animation pastorale de travailler certains points. Je vais faire aussi quelques petites vidéos sur des questions pratiques. Voilà.
Très bien. Alors, ces orientations diocésaines, on peut dire aussi orientation pastorale. Quel est leur objectif ?
Écoutez, elle précise dans quelle direction notre Église diocésaine orientera son effort pastoral dans les années qui viennent, c'est ce que j'ai écrit. Et puis, elles vont aider aussi à comprendre dans quel sens je travaille, parce que moi j'ai des conseils, conseil épiscopal, conseil des doyens, conseil du presbytérium, j'ai aussi des collaborateurs autour de moi, donc ils voient très bien ce qu'on fait mois après mois. Mm-hmm. Mais il y a aussi beaucoup de paroissiens, beaucoup de fidèles qui ne voient pas très bien, qui n'ont pas une vision très claire de ce que nous sommes en train de faire ensemble. Voilà. Alors, donc les orientations, c'est de donner une vision générale. Je ne décris pas tout ce que fait l'Église dans le Gard, ce serait,
ça serait
impossible, mais ça donne un horizon pour un chemin à faire ensemble. Et donc, des orientations pastorales, elles sont nécessaires pour comprendre dans quel sens l'évêque travaille, et puis ce que peut faire du coup aussi le curé avec leurs équipes d'animation pastorale.
À qui sont-elles adressées, toutes ces orientations diocésaines ?
C'est pour tout le monde, c'est pour toutes les communautés, y compris les communautés religieuses, y compris l'enseignement catholique, y compris les mouvements aussi. Si vous voulez, toutes les communautés peuvent se sentir concernées, parce que elles, vous voyez, comme elles donnent une dynamique de fond, elles ne disent pas des choses extrêmement précises sur ce qu'il faut faire. C'est ensuite à chacun de s'en emparer, si je puis dire, de les accueillir, et puis de voir comment ça peut aider à faire grandir la foi.
Ces orientations sont assez structurées avec plusieurs parties et notamment aujourd'hui nous allons parler de cette première dimension qui est la perspective missionnaire, donc un élément qui est très important pour vous. Alors comment c'est né, c'est parti de quoi ?
Si j'ai fait des orientations au bout de 3 ans et demi de présence, c'est parce qu'un évêque n'arrive pas comme ça en disant « voilà ce qu'on va faire ensemble ». Moi c'est mes visites pastorales sur le terrain, dans les doyennés, qui m'ont permis aussi de voir les interrogations, de comprendre les défis de notre Église en 2025, avec cette nécessité aussi de comprendre comment ce que notre monde a changé. Notre monde depuis 60, 50, 40 ans a changé en profondeur, avec cette intuition, qui est partagée d'ailleurs par beaucoup d'évêques dans le monde, qu'il faut entrer dans une transformation pastorale, justement parce que les circonstances ont changé.
Tout à fait. Alors, vous avez effectué de nombreuses visites pastorales dans 5 doyennés du diocèse. Oui. Récemment, vous avez été donc au doyenné de la Vallée du Rhône, donc 6 visites pastorales. Et donc, c'est de là aussi qu'est née un peu toutes ces orientations, cette vision spécifique pour le diocèse de Nîmes. Et notamment, il y a aussi cette dimension de la transformation missionnaire. Qu'est-ce que ça a donné comme impulsion ?
Transformation, ça ne veut pas dire qu'auparavant on n'était pas missionnaire, évidemment, puisque nous avons la foi, ça veut dire qu'il y a eu des missionnaires qui nous ont précédés et qui nous ont transmis cette foi, et nous sommes reconnaissants. La question de dire qu'il y a une transformation pastorale, c'est simplement que les circonstances dans lesquelles vit l'Église ont profondément changé. Ce que j'explique dans les orientations, c'est que jusqu'il y a très peu de temps, pendant des siècles, nous avons fonctionné sur une dynamique très simple, c'est que les parents voulaient transmettre leur propre foi à leurs enfants. Et donc, ils amenaient leurs enfants au baptême, ils demandaient le baptême pour leur enfant, ça leur semblait tout à fait naturel, parce qu'ils avaient été baptisés, parce que leurs parents avaient été baptisés, et qu'on se transmettait la foi de génération en génération. Et donc, on arrivait et on était inscrit, si je puis dire, sur le registre du baptême, après le sacrement. Et ensuite, on allait au catéchisme, et puis on allait à l'aumônerie, on faisait sa première communion, sa confirmation. Ensuite, naturellement, ou un peu moins naturellement, mais en tout cas, on arrivait théoriquement au mariage, et puis avec un encadrement aussi de la vie chrétienne. j'allais dire jusqu'aux obsèques, mais toute notre dynamique pastorale, elle partait de ce point de départ que les parents venaient frapper à la porte du presbytère pour demander le baptême. Or ça, c'est pratiquement fini, parce que tout simplement, il y a eu une crise de la question de la transmission. Avec 68, tout simplement, on a dit, mais au fond, est-ce que transmettre n'est pas suspect ? Est-ce que transmettre, ça n'est pas aliéner la liberté de
obliger de les personnes à.
Ah voilà, exactement. En plus, sur la foi, qui est un acte très personnel, parce que c'est sûr qu'avoir la foi en Jésus, c'est un acte très personnel. Et on s'est dit, on va attendre que l'enfant choisisse. Malheureusement, la transmission, c'est de donner des éléments. Ensuite, la personne, à partir du moment où elle reçoit un héritage, elle choisit de prendre l'héritage pour elle-même ou bien pas. C'était là-dessus qu'était basée quand même la transmission. C'est-à-dire que ce qu'on transmet, l'enfant le reprend à son compte et puis ensuite il crée à partir de ce qu'il a reçu. Mais là, on a pensé qu'il ne fallait pas transmettre. Peut-être que ça dénotait aussi une sorte de faiblesse dans la foi des parents qui ont décidé qu'ils ne voulaient pas transmettre cette foi. En tout cas, ça c'est un changement majeur. Tout simplement parce que les gens ne viennent plus frapper à la paroisse pour demander le baptême et pour inscrire les enfants en catéchisme. Mmh. Et donc, si jamais ils ne viennent plus à la paroisse, il faut que nous allions vers les personnes qui ne viennent plus. Mmh. Or ça, vous voyez, ça déplace, je trouve, la responsabilité de la mission. Si jamais les gens venaient à la paroisse, c'était le prêtre qui faisait le premier accueil, parce que, voilà, tout simplement, ou bien la personne qui accueillait au nom du prêtre, mais enfin, c'était le prêtre qui était en charge, quand même, de s'occuper des personnes qui avaient frappé à la porte. Tandis que là, la charge de la mission, elle repose beaucoup plus sur les fidèles, sur les baptisés. Vous savez, quand je rencontre des lycéens, par exemple, je leur dis, mais moi, dans votre lycée, je ne peux pas aller annoncer le Christ. C'est vous qui êtes les premiers apôtres, les premiers missionnaires dans le lycée. Mmh. Et ça, c'est vrai dans les quartiers de nos villes, et c'est vrai dans la vie professionnelle, et c'est vrai dans les domaines agricoles. Les premiers missionnaires, ce sont les baptisés eux-mêmes. Voilà. Alors la transformation missionnaire, c'est de dire, il faut tenir compte de ce nouveau contexte, et il nous faut inventer une manière, justement, d'aller rejoindre ceux qui ne viennent plus chez nous.
Et comment passer le cap en 2025 de ces nouveaux défis pour la mission de l'Église ?
Le pape dit dans son encyclique sur le Sacré-Cœur, qui est d'octobre 2024, il dit ceci, « La mission a besoin de missionnaires amoureux, toujours captivés par le Christ, et qui transmettent inlassablement cet amour qui a changé leur vie. » Et il ajoute, « Le Christ te demande, sans négliger la prudence et le respect, de ne pas avoir honte de reconnaître ton amitié pour lui. » Il te demande d'oser dire aux autres qu'il est bon pour toi de l'avoir rencontré. Ça, c'est des très belles phrases du pape autour de la question du Sacré-Cœur, c'est-à-dire l'amour dont nous sommes aimés par Dieu. Eh bien, nous pouvons en témoigner parce que c'est la meilleure nouvelle que nous puissions entendre.
Tout à fait. Et d'ailleurs, nous avons chaque année un nombre de catéchumènes qui est de plus en plus important. Il y a une centaine donc de catéchumènes qui sont dans cette démarche. Pour notre diocèse, c'est un appel de Dieu pour notre temps. Quelles sont finalement aujourd'hui les motivations ? Pourquoi ces candidats au baptême frappent à la porte de l'Église ?
L'augmentation du nombre des catéchumènes est quand même une provocation pour nous. Les gens ne viennent plus présenter leurs enfants, mais il y a des tas d'adultes. Alors il y a une centaine d'adultes, mais il y a aussi une cinquantaine de collégiens et lycéens, d'adolescents, ouais, qui demandent cette année le baptême, qu'on réunit, qu'on prépare. Et c'est vrai qu'en les écoutant, parce que chaque année, alors je lis leurs lettres, parce qu'ils m'écrivent tous une lettre, et puis ensuite, j'aime bien les réunir une fois par an pour qu'ils témoignent les uns devant les autres sur les raisons pour lesquelles ils demandent le baptême. Et c'est vrai que je me suis fait une petite liste des quatre motivations principales. La première motivation, c'est de dire, au fond... j'ai toujours cru qu'il y avait un Dieu qui existait. Alors, on ne m'a pas permis de mettre des mots dessus, parce que dans ma famille, on n'était pas du tout pratiquants. On était même parfois anticléricaux. Mais j'ai toujours eu cette impression que quelqu'un existait. Voilà. Et donc, là, il y a l'attente d'un témoin. Quelqu'un qui donne une Bible, quelqu'un qui parle de sa vie de croyant.
C'est ce que vous appelez la conviction intérieure, souvent depuis l'enfance, que Dieu existe.
Oui, c'est ça. Il y en a qui ont cette conviction intérieure et qui demandent juste qu'il y a des témoins qui leur ouvrent la porte de l'Église, la porte de la foi chrétienne, oui. La deuxième motivation, c'est les épreuves de l'existence. Il y a des gens qui ont traversé des lourdes épreuves et qui ont fait l'expérience de la consolation du Seigneur, de la présence aimante et miséricordieuses du Seigneur dans leurs épreuves. La troisième motivation, c'est le contraire, c'est qu'il y a des gens qui ont tout. Une vie bonne, un salaire, une maison, un conjoint, une famille aimante. Mais ils disent tout ça ne donne pas un sens suffisant à ma vie. Et puis il y a tous ceux qui, et ça c'est assez curieux, mais qui font l'expérience de la parentalité, de la paternité, de la maternité, qui disent mais voir un enfant grandir, et en particulier grandir dans la foi, eh bien ça me mène à Dieu, c'est une voie vers Dieu. Alors il y a d'autres motivations, parce que sur 100 adultes qui demandent le baptême, évidemment les raisons de le demander sont très différentes, mais ça fait partie des quatre premières, quoi, celles qui reviennent le plus souvent.
Alors, effectivement, pour accompagner ces catéchumènes, toutes ces personnes qui se tournent vers l'Église, qui ont soif de l'annonce de la bonne nouvelle, vous dites qu'une communauté paroissiale doit être en sortie, elle doit être attractive, elle doit être dynamique. Et donc, vous exposez cette double dynamique dont vous parlez, de sortir, d'aller vers les périphéries, d'avoir des communautés attractives.
Oui, c'est ça. Alors, le pape nous fait beaucoup réfléchir là-dessus, sur le fait qu'il faut être en sortie parce qu'il faut aller justement vers ceux qui ne viennent pas. C'est une présence au monde, comme on dit, une présence aux gens, dans leur humanité. Et donc, comment est-ce qu'une paroisse peut ne pas simplement s'occuper, vous voyez, de sa propre vie, mais être toujours, disons, passionnée par l'humanité qui est autour d'elle et par tout ce que vivent les gens. Bon. Et puis, ensuite, il y a l'attractivité, c'est-à-dire qu'une communauté, au fond, qui est fraternelle, qui vit de sa foi en Jésus-Christ, qui est fervente, une communauté confessante, comme je l'explique, eh bien, est une communauté qui attire. On a envie de trouver là un sens, on a envie de trouver là des frères et des sœurs, on a envie de trouver là un lieu pour avancer, pour grandir, pour croître dans son humanité et puis dans sa vie avec le Seigneur, dans sa foi. Et donc, il y a ces deux logiques sur lesquelles il faut que les paroisses, à mon avis, réfléchissent. Parce qu'une paroisse qui serait en sortie, mais qui ne serait pas fraternelle, au fond, on n'aurait pas envie de la rejoindre. Mmh. Une communauté qui serait uniquement fraternelle et qui ne serait pas en mission, ça serait un groupe refermé sur lui-même, finalement.
Tout à fait. Alors, pourquoi la fraternité est-elle si importante aujourd'hui, selon vous ?
Tout simplement parce qu'on vit dans un monde très individualiste. Vous voyez, on est tourné vers nos écrans, donc c'est un grand confort, on fait un peu ce qu'on veut, on va un peu dans tous les sens, c'est très, on peut passer des heures sur nos écrans, mais on sait très bien que notre cœur, il a besoin d'autre chose. Il a besoin aussi de relations, il a besoin d'amitié, il a besoin de paroles, de conversations, il a besoin d'échanges. Et alors, en s'enfonçant dans une forme d'individualisme, dû en particulier aux écrans, pas que aux écrans, mais aussi aux écrans, on est assoiffé de relations. Parce que Dieu, si vous voulez, est communion. Nous confessons un Dieu qui est Trinité, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, et qui se livre à l'homme, c'est-à-dire qui entre en conversation avec l'homme. Vous voyez, la relation, elle est vraiment au cœur de notre foi. Le premier mot de Dieu à l'homme, c'est « écoute, écoute Israël ». Dieu veut nous emmener dans la vie trinitaire, parce que c'est ça la vie chrétienne, c'est d'être emmené, d'être emporté dans la vie du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans cette communion divine. Et il le fait en s'adressant à nous et en se révélant à nous par sa parole. Et donc, il suscite notre oui, il suscite notre réponse. La vie chrétienne, c'est un dialogue permanent avec Dieu. Pour ce dialogue, il faut être deux. Et alors, voilà pourquoi l'Église peut être un lieu où on est sorti, vous voyez, de la tentation de se tourner simplement vers soi-même pour s'ouvrir, vous voyez, à la relation.
Vous parlez aussi de l'exhortation à Amoris Laetitia, qui nous fait réfléchir vraiment sur la manière d'accueillir les personnes. Vous nous interpellez aussi sur un peu cette porte d'entrée pour la mission, une analyse un petit peu que vous avez faite vous-même sur comment être missionnaire.
Oui, alors ce que vous disiez sur Amoris Laetitia, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent, qui rejoignent nos communautés, mais qui ont des vies qui ne sont pas simples, parfois qui sont cabossées, quoi. Et donc, comment est-ce que nous les accueillons avec le parcours qu'ils ont fait ? Et moi, je pense qu'il y a une place pour tout le monde dans l'Église, même si parfois on ne peut pas célébrer, en tout cas pas maintenant, un sacrement, mais il y a une place pour tous. Voilà. Et comment est-ce que nos communautés, elles savent faire ça ? Et ensuite, j'insiste sur le fait que la communauté doit être ouverte à celui qui arrive. Mais cette porte ouverte, elle peut avoir plusieurs formes. Il y a plusieurs portes pour entrer dans l'Église. Alors, de fait, il y a la porte de la raison, du raisonnement, de l'intelligence, où on essaie de comprendre par la raison l'intérêt de la foi chrétienne. ou pourquoi est-ce que nous adhérons, pourquoi est-ce que notre liberté adhère à Dieu. Mais il y a d'autres portes qui sont peut-être moins rationnelles. Par exemple, la porte de la beauté. Dans la beauté, c'est pas la raison qui travaille. On est ravi, tout l'être est ravi par le beau. Or, la beauté nous révèle l'invisible et nous fait accéder à Dieu, justement en nous ravissant. Voilà. Mais il y a la porte de la fraternité. C'est celle aussi qui peut ouvrir la porte de la vie chrétienne à d'autres, parce que tout simplement, dans une communauté chrétienne, il y a un accueil, il y a un dialogue, il y a un intérêt pour l'autre. La porte, c'est aussi la porte de la charité et du service, le service du monde. C'est notre vocation, celle de l'Église, de servir à l'image du Christ serviteur. Et je crois que c'est une porte d'entrée dans la foi. Il y a la porte de la joie aussi, parce que parfois on est dans un monde triste. Or, un chrétien, il devrait porter cette joie d'être avec le Seigneur. Comment est-ce que nous sommes gardiens de la joie dans notre monde? C'est la joie qui vient du Christ, c'est le premier fruit de l'Esprit Saint, la joie. C'est la joie d'être aimé de Dieu inconditionnellement. Et si vous voulez, il n'y a pas d'autre source de la joie, la source la plus profonde de la joie, que de se savoir aimé de Dieu. Il y a la porte de l'unité, en particulier dans notre département où on a une vie entre protestants et catholiques. On a une histoire ensemble et je pense que tous les pas que nous faisons ensemble, tout ce que nous pouvons faire ensemble, c'est extrêmement important pour donner crédibilité à la foi chrétienne. Parce que tout simplement, notre séparation est un scandale. Et puis, j'ai insisté aussi sur la porte de la vie conjugale et familiale, parce que nous pensons profondément qu'un couple uni par le sacrement de mariage est une image de la Trinité, de cette vie de communion entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, que les époux sont invités à en témoigner par leur amour, y compris un amour qui se fait pardon, un amour qui peut être traversé par des tensions. Mais la mission propre des personnes mariées, des baptisés qui ont reçu le sacrement du mariage, c'est de témoigner de l'amour que Dieu porte aux hommes, et de témoigner en famille aussi, avec leurs enfants. Voilà pourquoi je pense que le couple et la famille sont vraiment des lieux de mission, des petites églises domestiques où on est missionnaire.
Et alors, on pourrait aussi ajouter la porte des églises. Ça, c'est un élément aussi qui est très important pour vous, que les églises aussi soient des lieux ouverts, où les portes des églises soient ouvertes, pour permettre aussi à toutes les personnes qui le désirent de rencontrer Dieu.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, au fond, toutes ces portes dont je parlais juste avant, ce sont des portes effectives. Mais il y a aussi le signe fort, le symbole fort d'une porte d'église ouverte. Or, on a une marge de progrès à faire, parce qu'on a peur que nos églises soient cambriolées. Mais une église fermée, c'est un contresens. Une église doit être ouverte. Une porte doit être des bras ouverts pour celui qui veut rentrer et qui veut faire l'expérience du silence, qui veut faire l'expérience de la prière, l'expérience de la transcendance. Voilà, une église, elle est ouverte pour les croyants et les non-croyants, et puis pour tous ceux qui se posent des questions et qui sont en recherche de sens. On ne se rend pas compte de la puissance de témoignage d'une église ouverte. Vous voyez, une église, elle a un clocher qui monte vers le ciel, et donc elle attire vers le haut. Quand l'église est ouverte, ça veut dire, oui, tu rentres, et puis hop, tu vas monter vers le ciel. En gros, c'est ça, vous voyez. Or, si jamais les portes de l'église sont fermées, on dit, non, tu n'as pas le droit au ciel. Nous n'avons rien à te donner. Voilà. Alors qu'une église ouverte, c'est de dire tu peux y accéder aussi, la porte est ouverte pour toi.
Alors nous allons terminer cette première émission, on va dire cette première partie sur la perspective missionnaire. Nous nous retrouverons sur Radio Ecclesia pour la suite de ces orientations diocésaines, notamment sur les paroisses missionnaires, sur les appels pour l'église du Gard et pour notre diocèse de Nîmes, et puis sur le discernement ecclésial et les missions des EAP. En ce début d'entrée dans Carême, est-ce que vous auriez un petit message de Carême pour les auditeurs de Radio Ecclesia?
Le Carême, c'est vraiment ce temps favorable, temps d'intériorité, temps de conversion aussi, temps où nous pouvons relire notre existence. Je crois que dans le carême, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter et se dire où est-ce que j'en suis dans ma vie avec le Seigneur. Et du coup, dans ma vie avec mes frères et sœurs, dans ma vie entière. Dans l'évangile du premier dimanche, on entend Saint-Luc dire que l'Esprit-Saint conduit Jésus au désert. Et alors, quand on va au désert, il faut y aller avec l'Esprit-Saint. C'est-à-dire que s'asseoir, oui, s'arrêter, oui, mais avec l'Esprit-Saint. Et laisser l'Esprit-Saint révéler, justement, ce qu'il a à nous dire. Et donc, ça se fait dans le silence. Je voudrais dire aussi que les auditeurs peuvent retrouver le contenu de ces catéchèses sur le site, avec des podcasts, dans les petits livrets qui seront distribués dans les paroisses très prochainement. Je vais faire aussi une, deux ou trois vidéos aussi un peu techniques. Ça sera des manières d'approfondir ces orientations pour notre Église.
Parfait. Merci, Monseigneur.
Merci, Laurence, et bon carême à tous les auditeurs.